se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Professeur Gilles Pialoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Votre livre « Nous n'étions pas prêts » chez Jean-Claude Lattès, vous racontez le quotidien de la première vague épidémique. Alors, est-ce que l'épidémie s'aggrave aujourd'hui? La maladie est-elle moins grave? Les nouvelles décisions prises par le gouvernement sont-elles les bonnes? Ces questions et beaucoup d'autres avec vous. Professeur Gilles Pialoux, je me souviens de votre première intervention ici, c'était le 17 mars, premier jour du confinement. Nous sommes 6 mois et une semaine plus tard, aujourd'hui 24 septembre. Est-ce que vous êtes aussi inquiet?
Alors, le mot inquiet fait tâche, il paraît pour les soignants, mais oui, je suis très préoccupé. Je suis très préoccupé pour trois raisons, qui d'ailleurs sont bien ressorties dans le discours du ministre de la Santé hier. Évidemment, par les chiffres, parce qu'on a beaucoup trituré les chiffres au mois d'août en disant mais non, c'est les étrangers qui viennent à Marseille, c'est les mariages, certaines religions. Enfin, on a dit tellement de choses et son contraire que qui succède au discours pas clair de la première vague autour du masque, de la prévention. Donc les Français sont paumés. Donc je suis inquiet par effectivement cette zone d'incertitude qu'on a à gérer. Je suis inquiet évidemment par les chiffres et je suis inquiet parce que je suis sur le terrain. Je tripote pas les chiffres. J'ai un service qui est à moitié plein, qui s'est rempli assez vite. On a passé notre niveau 1 sur une gradation à 4. On a une réanimation effectivement qui commence à pousser alors que pendant un moment on a dit que la réanimation ne poussait pas. Je suis inquiet aussi parce qu'il va falloir faire coexister les malades non-Covid avec les Covid, et ça c'est une réalité qu'on n'a pas eue dans la première vague et qui va être très compliquée. Et puis je suis inquiet aussi, ou préoccupé surtout, par le fait que le personnel soignant était déjà sous tension et que là on a une tension sur les personnels qui existait avant. Et puis il y a le Covid qui s'invite chez les personnels, parce que plus vous dépistez, plus vous trouvez du personnel. Et moi j'ai des collaborateurs, j'ai des aides-soignantes, j'ai des infirmiers qui sont Covid+, et qui évidemment sont en éviction, et ça pèse évidemment sur l'organisation.
Professeur Pialoux, vous portez un masque, vous êtes le premier ici, premier invité à porter un masque. Nous en avons parlé avant, pourquoi?
Alors pour deux raisons. La première, c'est que c'est pour l'exemple. Je pense que cet objet doit faire partie du paysage des mois à venir. C'est pas un objet liberticide, on en a déjà discuté ici. Moi, je vis avec, dans mon milieu professionnel. J'essaye de le porter aussi dès que je suis en milieu clos. Et puis, anecdotiquement, mais je le dis, une chaîne concurrente a déprogrammé des collègues parce qu'ils portaient le masque. Je trouve ça inadmissible. Donc, je trouve qu'il faut avoir, nous, les infectiologues, de terrain, au contact des malades. Vous savez pas ce que j'ai fait hier. J'ai peut-être examiné mal un malade, et je pense que c'est de mon ressort de montrer l'exemple.
Gilles Pialoux, le gouvernement a présenté une nouvelle cartographie hier et a pris de nouvelles décisions, des décisions qui sont très commentées, très discutées aujourd'hui. Parlons de Marseille, plus largement de toutes les Bouches-du-Rhône, Marseille, Aix-en-Provence. J'ai entendu la colère de Michel Rubirola, maire de Marseille, la colère de Marie Joissant, qui est maire d'Aix-en-Provence. Colère parce que les bars et restaurants seront fermés samedi ou lundi. On n'a pas encore, je crois que c'est samedi, mais c'est pas encore très précis, mais seront fermés dans tous les cas. D'autres mesures extrêmement strictes à Marseille. Les Marseillais ont l'impression d'être isolés et vous savez ce qu'on dit à Marseille, à Paris on nous en veut. Que répondez-vous? Est-ce que vous comprenez ces mesures?
Je crois que la situation de Marseille est très
compliquée.
Est-ce
que ce sont les bonnes mesures?
Moi je trouve que c'est des mesures de guerre et qu'effectivement on est de nouveau en guerre et on ne veut pas se retrouver à la situation de mars-avril car nous n'aurons pas les moyens dans les hôpitaux de tamponner cette augmentation. Et je rappelle, le ministre l'a dit hier, mais je pense que c'était une version optimiste. Si vous regardez le temps de doublement de rentrée en réanimation, et les réanimateurs marseillais ont alerté depuis le mois d'août sur ça, on n'est pas à l'IHU là, on est dans le vrai et Marseille, la Timone, les hôpitaux qui ont des réanimations, l'augmentation du capacitaire en réanimation. Il y avait des chiffres assez alarmants sur le taux d'occupation, autour de 80% pour certaines réanimations. Donc il y a une pression très forte, il y a une tension aussi sur le personnel, et Marseille vit ça, de manière violente, comme le Haut-Rhin l'a vécu pendant la première crise.
Mais que répondez-vous aux élus qui disent mais c'est insupportable ce diktat venu de Paris? Que leur répondez-vous?
Non, mais je veux dire, il va falloir arrêter de reproduire l'OM-PSG en permanence et cet affrontement. On est dans une crise qu'on n'a pas encore étiquetée. Cette maladie n'est pas encore totalement comprise. On n'a pas de modélisation claire qui nous.
Nous n'avons aucune donnée, dit Michel Rubirola.
Les données, elles sont fournies par Santé publique France. C'est incroyable parce qu'on a perdu dans cette histoire-là, et certains journalistes, bien sûr ce n'est pas votre cas, mais certains journalistes ont perdu le sens de l'investigation. Si vous allez sur Santé publique France, vous avez des bulletins régionaux qui vous donnent les chiffres, en différé, il y a parfois des rattrapages, etc. Mais globalement, on sait ce qui se passe en région. Donc on sait ce qui se passe dans les Bouches-du-Rhône, on sait ce qui se passe en PACA, et effectivement, c'est pas pour faire une focalisation, mais vous avez vu hier qu'il y a beaucoup d'autres métropole et beaucoup d'autres départements qui sont concernés,
y compris Paris, de nombreuses grandes villes.
Voilà, et y compris, et ce qui m'a vraiment perturbé aussi dans les chiffres qui ont été communiqués, des lieux où on pensait que le virus ne circulait pas ou qui n'a pas circulé pendant la première vague, comme c'est le cas de la région bordelaise.
Bien.
Donc je dirais que les politiques. Le Covid est devenu un sujet politique.
Mais oui, mais Gilles Pialot, la population ne comprend pas. Pourquoi est-ce plus dangereux d'aller au restaurant que, je ne sais pas moi, de se promener dans la rue, de prendre le train, de je ne sais pas. Pourquoi est-ce plus dangereux? Pourquoi est-ce qu'on ferme ces lieux-là? Pourquoi est-ce qu'on ferme les salles de sport à Paris et dans d'autres grandes villes de France?
Mais parce qu'il y a des données, et vous verrez, parce que le Conseil scientifique va donner bientôt un rapport, j'espère qu'il va être rendu public, sur comment vivre, parce que c'est la question, c'est comment vivre avec, justement, atteindre trop aux libertés, et que je trouve que ce programme est intéressant, parce que c'est un programme dynamique. Comme l'a dit le ministre, vous savez que c'est rare quand même que je reprenne toutes les expressions du ministre, mais c'est vrai qu'on voulait des mesures territoriales, on voulait des mesures adaptées à la circulation du virus et des mesures qui sont rectifiables dans le temps. Mais il l'a dit, on verra ça dans 15 jours, 3 semaines. Je pense que 15 jours, 3 semaines, c'est un peu court. Moi, je vous le dis, très solennellement, tout ce qui est en notre possession comme chiffre nous rend très inquiets. Nous, les gens de terrain, les réanimateurs, les urgentistes, les internistes, les infectiologues, nous rend très inquiets pour cette période de fin octobre, début novembre.
Mais attenons.
Très inquiets.
Dans votre service, attenons, que se passe-t-il? Prenons votre exemple.
Notre exemple, c'est que nous, on a un plan. Bien sûr, on fait des plans, mais on sait de la première vague.
En réanimation, il y a combien de patients Covid?
En réanimation, aujourd'hui, on avait prévu 5 places sur 20, c'est-à-dire un quart de.
Oui.
Donc un quart de 25% du capacitaire, et on est actuellement à 7 malades en réanimation.
Et 7 sur 20.
7 sur 20. Et en hospitalisation, et on est actuellement à 24 malades. Évidemment, on va me dire ça n'a rien à voir, mais c'est le temps de doublement qui est important. Vous parliez de Marseille tout à l'heure, vous savez que le temps de doublement de rentrée dans la réanimation, c'est 7 jours. C'est-à-dire que 7 jours, si vous avez 10 malades, au bout de 7 jours, vous en avez 20, etc. Au bout de 7 jours, vous en avez 40. C'est ça qui compte. Et dans mon service, moi, j'ai la moitié de mon service qui est déjà plein.
Donc, cellule de crise réactivée. Double chez vous, comme dans de nombreuses
crises,
en France.
Au niveau de l'hôpital, au niveau du groupe hospitalier, on est en train d'en faire deux par semaine parce que il faut gérer en temps réel. On a des groupes WhatsApp pour s'échanger les malades.
Mais est-ce que le personnel est prêt? Est-ce que le personnel serait aujourd'hui en capacité d'absorber ce qu'il a réussi à faire au printemps dernier? On dit que le personnel est là. On dit qu'il est un peu démoralisé.
Le personnel, c'est celui qui a vécu la première vague. Donc, la première vague.
Oui.
Deuxièmement, le personnel vit quelque chose de nouveau. C'est qu'effectivement, on dépiste plus. Donc, on trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, du personnel qui est Covid plus. Et il y a aussi la question de l'école et des enfants.
Du personnel Covid
tout à fait. J'en ai, oui. J'ai des infirmières, des aides-soignantes, des médecins qui sont en éviction de ces jours-ci. Et ça continue chaque jour parce qu'effectivement, après, il y a les contacts des contacts. Les soignants sont des citoyens comme les autres.
Mais
eux aussi, ils ont tendance à enlever le masque dès qu'ils sont à 3 ou 4 dans une salle pour déjeuner. Ouais. Eh ben, il faut effectivement, et je pense que l'électrochoc qu'il y a eu hier est l'application de ce que disait Delfrécy, c'est-à-dire des mesures difficiles à prendre, mais qu'on ne prend pas de gaieté de cœur. On ne prend pas de gaieté de cœur, c'est pour protéger les réanimations, pour protéger les autres malades. Les autres malades.
Oui, parce aussi. Qu'il n'est pas question de tout arrêter à l'hôpital, comme on l'a fait.
Il n'est plus question.
Il n'est plus question, comme on l'a fait au printemps, pour n'accueillir que les malades Covid.
Mais nous, on a par exemple des réunions de tout le groupe hospitalier, c'est un énorme groupe à l'échelle parisienne, parce qu'il y a Pitié, il y a Tenon, il y a Trousseau, enfin, ça brasse Saint-Antoine, etc. On sait par exemple qu'il y a des spécialités de cancérologie, de rhumatologie, qui ont 400 ou 500 dossiers, comme ils disent. C'est-à-dire, derrière des dossiers, il y a des patients en retard. En retard de la première vague.
Donc, il n'est pas question aujourd'hui de déprogrammer des interventions.
Mais ça sera une catastrophe, et je crois que là tout le monde est d'accord, ça sera une catastrophe d'en arriver à déprogrammer. Mais je vous signale qu'il y a quand même des régions, et y compris d'ailleurs en PACA, où ils l'ont exprimé, les médecins de la Timone. Il y a aussi à La Réunion, il y a quand même des discussions d'entrevoir la possibilité de déprogrammer. Pourquoi ? Parce qu'on manque de personnel. On manquait de personnel avant la crise du Covid. On en manque encore plus là, puisque précisément c'est la rentrée. Il y a des personnels qui sont en arrêt, il y a des personnels qui sont en congé. Et puis effectivement, on verra s'il y a des personnels qui sont en burn-out de la première vague. C'est une possibilité.
Mais j'entends, vous aussi, professeur Pialou, et je regarde quand même les chiffres. Tiens, je vais prendre quelques chiffres. Vous allez me dire, ce que valent ces chiffres. 7000 personnes en réanimation en avril dernier, 940 aujourd'hui. 750 entrées en réanimation par jour en avril, 90 par jour à peu près aujourd'hui. 32 000 hospitalisations en avril. 6000 aujourd'hui. Hier, 68 décès. En avril, c'était plusieurs centaines de décès par jour. Donc on en est loin. Certains nous disent la maladie a changé. Les malades restent moins longtemps à l'hôpital, ils sont moins intubés, il y a moins de décès. C'est vrai ou faux,
Jean-Jacques? Cette réalité, elle est complexe. Ce que vous dites. Il est vrai sur les chiffres, mais faux sur la dynamique.
Oui.
Parce que vous comprenez bien que si chaque semaine vous augmentez de 50% la réanimation, vous êtes au 19 octobre à 650 par semaine de rentrée en réanimation. C'est exactement le chiffre du 30 mars. On ne veut pas être au 30 mars. Donc il faut que les faux sachants arrêtent de nous dire, mais oui, il y a moins de décès. Ce que vous dites sur la réanimation est juste.
Oui.
Mais c'est en train de diminuer. C'est-à-dire que c'est en train de diminuer. On a vu, il y a certains réanimateurs qui se sont exprimés. Au début, effectivement, au début du mois de septembre, on a vu des patients. Parce qu'on a appris. Ça, c'est des éléments positifs. On a appris. On met des anticoagulants de manière très précoce. On met un dérivé de la cortisone qui a montré son efficacité sur la mortalité.
Les corticoïdes sont efficaces, oui.
Oui, qui diminue quand même de plus d'un quart la mortalité.
Oui.
Et on a une prise en charge ventilatoire qui est différente. Donc, effectivement, vous avez raison que les malades ne sont moins longtemps en réanimation, moins de mortalité, divisé par deux à la PHP. Bien sûr, mais on est très prudent parce que ça a été vrai surtout au début et on a l'impression que ça s'effrite. C'est-à-dire que les malades qui rentrent en réanimation actuellement, je connais des réanimations où il y a des patients qui sont au stade le plus sévère, c'est-à-dire où il faut une circulation extracorporelle et tout ça. Ce qu'on a vu dans la première vague. Donc il faut être très prudent de cette dynamique qui fait que peut-être au début, on a vu les cas les moins graves. Mais
attendez,
on a appris.
Beaucoup
on
de médecins, appris. Mais Didier Raoult qui dit et d'autres affirment que le virus a muté, que la maladie est donc moins grave. Est-ce qu'elle est moins grave? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on le sait d'ailleurs? On ne le sait pas.
Il faut que sur Didier Raoult, les gens rembobinent ce qui a été dit depuis le début. En janvier, il y avait 3 Chinois qui mouraient. En février, il n'y avait pas plus de morts du Covid que des accidents de trottinette. Après, il y a eu fin de partie, on a trouvé le traitement. Il est où le traitement? Je veux dire, on sait très bien que ça ne fonctionne pas, l'hydroxychloroquine. Il n'y a aucune preuve actuellement que ça fonctionne. Après, il n'y aura pas de deuxième vague. Voilà, il faut replacer ça dans le contexte. Moi, je ne suis pas divinatoire, mais c'est la même maladie qui circule.
Est-ce que c'est la même maladie?
Écoutez les virologues, écoutez ceux qui sont dans la virologie, le centre de référence de l'Institut Pasteur. Je vous réponds sur ça parce qu'il n'y a pas de preuve qu'on ait un virus moins agressif. Il n'y a pas de preuve qu'on ait un virus moins agressif. Donc, oui, c'est la même maladie et c'est les mêmes malades, sauf qu'on les prend mieux en charge.
Bon, mais Gilles Pialou, là, je me fais l'avocat du diable, mais...
Oui, c'est pas votre genre, d'habitude.
Mais oui, mais non, mais parce qu'il faut entendre cette voix aussi. Est-ce qu'on peut empêcher des virus de circuler? Est-ce que la coercition peut empêcher un virus de circuler? Un virus circule
quelles que soient les décisions qu'on prenne, non ?
C'est une question philosophique, c'est-à-dire que il faut voir les moyens qu'on a de laisser circuler le virus. Oui. Il y a eu deux erreurs. La première, c'est de dire ah oui, mais il faut laisser la population. Il y en a quelques-uns qui sont fouvoyés en disant il faut laisser les jeunes sont contaminés. C'est débile. C'est débile pour que les jeunes, de toute façon, c'est au maximum, si on va jusqu'à c'est 17% de la population, donc de toute façon, ça suffira pas à avoir une immunité collective. Et d'autre part, les jeunes ne sont pas hermétiques parce que les jeunes rentrent dans les familles, les jeunes voient les personnes les plus fragiles et les plus âgées. Donc ça c'est une première erreur. Et la deuxième, c'est de dire oui, c'est vrai qu'il faut vivre avec. D'ailleurs, je le répète, le prochain avis du Conseil scientifique sera avec cette expression-là, vivre avec. Vivre avec, ce n'est pas vivre avec la marée. Mmh. On ne veut pas que la marée monte dans les hôpitaux. Voilà. Donc il va falloir trouver. Probablement qu'il y aura un plateau. Après octobre-novembre, parce qu'on aura écumé les retours de vacances, écumé les regroupements familiaux, écumé la rentrée scolaire, la rentrée universitaire. Rentrée universitaire, il y a des clusters incroyables dans l'université, incroyables. Et puis on aura géré probablement aussi les plus âgés, les EHPAD. Il y a quand même 180 clusters dans les EHPAD au 22 septembre. Donc on n'a pas réglé le problème des plus âgés non plus. Donc on n'a pas réglé le problème des jeunes, on n'a pas réglé le problème des plus âgés.
Et puis beaucoup brandissent la méthode suédoise. Pas de confinement, pas de fermeture de bars ou restaurants, pas de masque obligatoire.
Et vous avez vu les chiffres de la Suède ?
Ben, j'ai vu les chiffres, 5870 morts au printemps, mais là, un décès par jour.
Mais parce que on est dans un phénomène dynamique qui remonte et que c'est extrêmement difficile de faire des prévisions. Ce qu'il faut regarder, le marqueur le plus important, c'est le temps de doublement, c'est la façon dont on a le double de malades, et en partant de la réanimation et en partant de l'hospitalisation.
Si je vous fais toutes
tout
ces
en
remarques,
faisant, non, mais je les accepte.
C'est parce que le discours n'a pas toujours été La population ne va pas accepter aussi facilement, non j'enlève le mot, de la même manière, une sorte de reconfinement qu'au printemps dernier.
Mais
Les Français ne peuvent plus. Les Français ont envie de respirer, professeur Pialo.
Mais attendez, c'est une très jolie phrase, là, je vais la reprendre. Hein.
Mais
nous aussi, on a envie que les Français respirent. Mais on a envie qu'ils respirent sans tube et sans insuffisance respiratoire. Excusez-moi de jouer sur ce mot-là.
Oui.
Parce que tout le monde a envie. C'est pareil, il y a des gens qui sont contre la deuxième vague, mais tout le monde est contre la deuxième vague. C'est débile. Personne n'a envie qu'il y ait une deuxième vague. La seule chose, c'est qu'il y a une résurgence et qu'on peut aller dans le mur en octobre-novembre si rien ne se passe. À la question que vous posez, est-ce que le coercitif est un moyen de contrôler les virus ? Évidemment, si on avait un vaccin ou si on avait des traitements très efficaces et radicaux, on passerait par une autre méthode.
Vous rendez compte que s'embrasser devient subversif ? Presque.
Voilà, ce qu'il faut dire aux Français, c'est que c'est une période, on n'est pas en train d'installer la vie du 21e siècle, on est en train d'être dans une période incertaine pour une maladie qui n'a que 8 mois de recul et pour lequel on apprend tous les jours.
Oui, la population.
Et un jour ça va se poser.
Oui.
Un jour ça va se poser.
Mais regardez le problème des tests. Regardez, en testant la population, on va pouvoir mieux contrôler la maladie. C'est ce qu'on nous a dit. Bon, les tests, ce qui se passe, c'est qu'on est testé, on a le résultat 4 jours après, ça ne sert plus à rien.
4 jours, mais vous avez de la chance.
4 jours, oui, ou 8 jours, ça ne sert plus à rien, parce qu'entre-temps, on peut avoir été infecté. Oui, franchement, c'est pour ça que la population n'accepte pas.
Justement, je ferai deux critiques à la communication du ministre hier. C'est une très bonne prise de position, mais on a surtout entendu un ministre de l'Intérieur parler, et il n'y a pas eu beaucoup de programmes de santé. Les santé, c'était... où il est le programme national de dépistage ? Ils font une politique de dépistage. Elle est toujours pas là. C'est pas en disant oui, j'ai demandé au laboratoire de prioriser. C'est-à-dire qu'effectivement, les plus malades passent avant ceux qui ont besoin d'un test pour rassurer leur grand-mère. Et puis il y a un autre truc, c'est qu'il y a un discours de langage qui était qu'on a dit tester, alerter, protéger, a dit le ministre. Mais non, mais c'est pas ça la bonne triade. La bonne triade, c'est isoler, tester, tracer. Il faut isoler d'abord. Et il faut une politique d'isolement. Je dis pas d'isolement coercitif comme on fait en Chine ou à Singapour, mais un isolement responsable. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, avant même qu'ils aient l'idée de faire le test, ils s'isolent. Et c'est un échec, la politique d'isolement. C'est un échec. On l'a réduit à 8 jours, essentiellement parce que c'est un échec. Donc je pense qu'il manque encore une politique de dépistage et il manque une politique d'isolement.
Professeur Gilles Pialou, la grippe classique va arriver bientôt. On la connaît d'ailleurs. Est-ce qu'on la connaît,
non,
cette grippe ?
Pas encore. L'OMS n'a pas encore communiqué.
L'OMS n'a pas encore communiqué. Mais il faut rendre la vaccination obligatoire pour tous les personnels soignants, pour tous les personnels qui travaillent dans les EHPAD, pour... Non, franchement.
Non. Mais voilà, c'est compliqué. Je ne sais pas vous répondre parce que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. À Thonon, on a fait des expériences. Il se trouve que quand on, c'est vrai que le niveau de protection du personnel non médical est totalement insuffisant. On est
bien sûr
25% et voire plus bas. Et effectivement, c'est assez inadmissible.
Mais un cuisinier dans une EHPAD, il n'est pas forcément vacciné contre la grippe.
Il y a plein de
choses. Je parle de la grippe traditionnelle.
Bien sûr.
Et on risque un choc.
On risque un choc, d'une part, on risque une cohabitation des deux virus, avec une confusion très compliquée à un moment où on ne comprend pas très bien comment on fait pour avoir des tests en temps rapide.
Oui.
Donc vous aurez des gens qui auront les mêmes symptômes, parce qu'ils ont soit le symptôme de la grippe, soit le symptôme des autres virus circulants pour lesquels on n'a pas de vaccin. Donc évidemment, alors je ne sais pas si l'obligation, probablement que l'obligation dans certaines populations, et je trouve que c'est à l'étude pour les soignants, mais les soignants, il faut aussi que ça soit un système pyramidal. Quand vous avez le chef de service, le cadre infirmier dans un service qui se fait vacciner, qui le fait savoir, qui s'engage, vous multipliez par deux le couverture vaccinale. Donc il y a des moyens.
Vous allez vous faire vacciner contre la grippe.
Évidemment. Cette année, en plus, il faut dégager. C'est vrai qu'il y a un élément optimiste, c'est que probablement les gestes barrières qu'on utilise vont diminuer la circulation du virus. Mais l'une des façons de le diminuer, c'est surtout si le vaccin est bon, ça sera de vacciner. Alors, obligatoire, je ne sais pas. C'est une décision politique. Je pense qu'on peut essayer de faire sans être encore plus coercitif.
Encore plus coercitif. Et puis, je regardais un chiffre aussi qui m'a interpellé un peu. Les hospitalisations pour crise cardiaque ont baissé de 30% pendant le confinement en France. Vous avez vu ça?
Alors, il faut le pondérer parce qu'il y a une très belle étude qui a été faite par les pompiers et par l'hôpital Georges Pompidou qui a montré quand même que ceux qui arrivaient plus tard avec des lésions plus graves coronariennes et qui avaient une augmentation de la gravité. Alors ça, c'était pendant le confinement.
Oui.
D'abord, probablement que pendant le confinement, il y a eu diminution du stress lié au fait, pas de transport, pas de travail, etc. Et aussi du fait que les gens sont arrivés tardivement. Il y a plusieurs papiers à Londres, à Paris, qui montrent quand même qu'au lieu d'arriver dans les 30 minutes, ce qui diminue la mortalité de l'infarctus, les gens sont arrivés à 90 minutes. Donc, je suis assez prudent avec ces chiffres-là, et ça, voilà, on verra ça après la crise.
Bien, merci beaucoup, professeur Kialou, d'être venu nous voir 6 mois et une semaine plus tard. Merci à vous. Il est 8h, nous n'étions pas prêts, c'est le titre de votre livre chez Jean-Claude Lattès. Il est 8h54, vous êtes sur RMC et BFM TV.